Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Julien Brezin, qui est le directeur général de Great Place to Work, que vous connaissez forcément. Dans cet épisode, nous allons parler de management, de bien-être, de flexibilité, de collectif et de l'impact que la pandémie aura eu sur notre rapport au travail. J'ai trouvé cet entretien absolument passionnant et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à l'écouter que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Julien.
Bonjour Gaël.
Alors Julien, comme d'habitude, je vais vous présenter très rapidement. Vous avez été diplômé de Paris Dauphine, vous avez travaillé chez L'Oréal à plein de postes différents, vous avez travaillé chez L'Occitane, vous avez travaillé chez L'Occitane, chez Annick Goutal, et depuis 2019, vous êtes le directeur général d'une entreprise que je dois dire je suis depuis très longtemps, Great Place to Work. Alors je suis très heureux de vous rencontrer car d'une certaine manière, vous et moi, nous travaillons pour la même cause, le bien-être au travail des salariés. Alors ma première question va être toute simple, Julien. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas Great Place to Work, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, et je sais ça va être un défi si vous avez plein de choses à dire, pourriez-vous pitcher Great Place to Work?
Alors effectivement, Gaël, d'abord merci de me recevoir. Notre rôle, et en ça nous suivons la même mission, notre rôle, c'est d'essayer d'aider les organisations à devenir et à être des endroits dans lesquels les collaborateurs et les collaboratrices puissent s'épanouir. Notre métier à nous, donc, c'est l'analyse de l'expérience des collaborateurs et des collaboratrices. Et l'angle choisi par Great Place to Work, c'est la confiance. S'il y a un seul mot à retenir sur la démarche de Great Place to Work, c'est que nous diagnostiquons la confiance pour une simple et bonne raison, c'est que nous sommes persuadés que, et les études académiques le prouvent, nous sommes persuadés que le facteur confiance est le facteur le plus important d'une expérience de qualité.
Vous voulez dire la confiance que les salariés ont vis-à-vis de leur entreprise en général ?
La confiance, en fait, elle va se décomposer, elle va se structurer autour de relations managériales, relations avec ses pairs, donc avec les gens avec lesquels on travaille, et puis relations à l'externe. Et en fait, c'est ce que nous, chez Great Place to Work, nous venons diagnostiquer pour apporter des actions, parce qu'au-delà du constat, évidemment, l'élément le plus important, c'est la mise en œuvre, à travers un diagnostic clair, la mise en œuvre d'un schéma d'amélioration continue.
Bien sûr. Alors vous êtes arrivé en 2019 chez Great Place to Work, avant la pandémie. Donc, et puis il y a eu ce petit événement qui a à peine bouleversé les habitudes. Est-ce que vous avez constaté des changements, justement, dans les attentes des salariés entre le avant et après pandémie? Et si oui, dans les grandes lignes, quels sont ces changements?
Alors, on a identifié, nous, quatre grands changements avant et suite à cette pandémie. Vous le savez, Gaël, comme moi, la pandémie a plutôt accéléré des transformations qui existaient déjà latentes. Elle les a diffusées plus qu'elle n'a créé des choses nouvelles. Le télétravail existait avant. Son organisation, par contre, le côté hybride et beaucoup plus diffusé du télétravail a été accéléré par la pandémie.
Mais maintenant, entreprise qui ne proposerait pas de télétravail, c'est une aberration.
Voilà, exactement. Maintenant, les entreprises doivent aussi s'adapter et les collaborateurs et collaboratrices doivent avoir en tête que des jobs ne sont pas télétravaillables.
Bien sûr.
Et qu'il faut bien penser à la cohérence d'une organisation complète quand elle propose des jobs qui, d'un côté, sont télétravaillables, d'autres qui ne le sont pas. Mais pour revenir à votre question, quatre grands thèmes nous sont prioritaires. Le premier, évidemment, c'est autour de cette notion de ce que nous, on va appeler dans notre anglicisme, alors désolé pour celui-ci, le smart working. Donc, ce qu'on va appeler, c'est finalement la façon d'organiser le travail. En fait, je travaille d'où je veux, quand je veux, avec les outils que je veux.
C'est la flexibilité totale, quoi.
C'est cette flexibilité très forte. Et j'ai envie de dire un petit peu plus loin que cette flexibilité, cette individualisation dans le rapport au travail. Premier élément. Deuxième élément derrière cette individualisation, cette notion de leadership. C'est-à-dire que, effectivement, les attendus managériaux se sont transformés au travers de cette crise. Et l'attendu managérial prioritaire aujourd'hui, c'est celui d'un développement, d'une forme de conciliation entre des différents temps de vie. Et ces attendus managériaux se traduisent par un modèle managérial qui doit se réinventer, se renouveler, laissant plus de place à un manager un peu plus coach, un manager qui est là pour développer son équipe, qui a un manager sachant, qui est là pour descendre la to-do list de son équipe.
Mais je vais dire quelque chose, pardon de vous interrompre sur ce point, Julien, mais le management, c'est un peu mon dada, comme on dit. Vous n'avez pas l'impression, alors est-ce que vous êtes frustré ou content, parce que le management finalement a toujours été gérer des équipes, mais j'ai l'impression qu'avec justement l'avènement du télétravail, les entreprises réalisent enfin que les managers de proximité ont un vrai rôle de gérer l'humain. Mais on a l'impression que les entreprises découvrent ça alors que c'était une évidence. Donc est-ce que ça vous frustre ou est-ce que vous êtes super content ?
Alors moi je suis hyper content parce que évidemment moi j'ai une croyance absolue dans la dimension cruciale du management intermédiaire comme acteur clé de l'organisation.
Et du bien-être.
Pour moi, c'est donc du bien-être. Mmh. Et donc de la transformation, et j'irai même plus loin, et demain de la révolution RSE qui doit s'organiser dans les organisations. Mmh. Donc, si vous voulez, le management intermédiaire est un acteur clé de qualité de vie au travail, est un acteur clé de sens au travail, est un acteur clé de la RSE demain. Mmh. Donc, son rôle n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Historiquement, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Lean, que vous connaissez, cette organisation qui avait vocation, ou la croyance qu'on a eue que les outils allaient nous permettre, et les tableaux de bord allaient nous permettre de remplacer le management intermédiaire, je crois, est battue en brèche par l'expérience du Covid. On a traité les deux premières tensions, enfin deux premiers éléments qui me paraissent importants à avoir en tête post-crise Covid. J'en rajouterai deux derniers, en plus donc de cette dimension du smart working et de ce renouvellement du management au travers d'une approche plus centrée autour du leadership et du management de proximité. Les deux derniers pour moi sont d'abord cette quête extrêmement forte de sens. Les collaborateurs sont à la recherche d'un sens, de donner un sens à leur activité, de trouver un sens. Alors attention, trouver un sens, c'est pas forcément sauver la planète, planter des arbres, c'est trouver du sens dans son activité au quotidien aussi. Et quatrième élément, pardon, c'est vraiment cette dimension autour de l'inclusion, à savoir la nécessité aujourd'hui faite de ne laisser personne au bord de la route. Et d'accepter, on revient avec cette dimension d'individualisation, la différence est de valoriser les différences individuelles, quelles qu'elles soient, d'origine, d'orientation sexuelle, etc., etc. Voilà, c'est les quatre grands thèmes que nous, on a vu être catalysés par le Covid.
Oui, comme vous le disiez très justement, c'était des thématiques qui existaient avant la pandémie, mais je compare souvent la pandémie avec tout ce qui est bien-être au travail et ce genre de choses, un petit peu à la vague de suicide de 2008 chez France Télécom et Renault, où on avait, d'une certaine manière en France, découvert la QVT. J'ai l'impression qu'en France, il faut des crises pour que les choses avancent de façon relativement radicale.
Je ne sais pas si c'est spécifique à la France, je pense qu'effectivement cette crise a été tellurique, vraiment systémique, très forte, très dense. Elle a, essayons d'en tirer, entre guillemets, profit, elle a été terrible, elle a marqué les gens, elle a fait des morts malheureusement, essayons d'en tirer le profit, c'est terrible de dire ça, mais qu'on apprenne de cette crise.
Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, on a appris de cette crise, et j'aimerais bien revenir un tout petit peu sur le télétravail. Je commence à entendre quelques petites voix de ci, de là, remettant en cause le télétravail dans l'impact qu'il peut avoir sur le bien-être au travail, ou sur le lien social, ou ce genre de choses. Est-ce que vous voyez des nouvelles résistances, enfin plutôt des anciennes résistances réapparaître du fait que bien souvent les dirigeantes font partie de ma génération, donc on va dire des vieux, qui connaissaient pas du tout le télétravail et qui reviennent un peu en arrière?
Alors, je crois pas que ce soit forcément de l'ordre des directions des organisations, parce que souvent dans les organisations, elles ont négocié un accord télétravail, et cet accord relativement contractuel, comme on aime les faire en France, va continuer à s'appliquer. Le vécu télétravail a amené des transformations et peut-être concilié un petit peu précipité post-Covid. C'est-à-dire que certains et certaines n'ont pas mesuré, en décidant d'aller vivre à Bordeaux alors qu'ils travaillent à Paris, pas forcément pleinement considéré ou pleinement pris conscience des contraintes à long terme que ça allait supposer.
Il y a une forme de réaction en urgence sans forcément réaliser tous les impacts.
Oui, puis des effets de balancier comme souvent. Donc on s'est dit, tiens, c'est génial cette nouvelle organisation, et on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Et que oui, évidemment, le télétravail, ça offre une flexibilité. Oui, le télétravail permet de concilier des temps de vie, mais oui, le télétravail, c'est aussi une forme de porosité entre le travail et la maison. Et ça a aussi des conséquences. Il faut trouver le bon équilibre. Et le petit bruit que nous, on entend, c'est plutôt celui de l'équilibre du pendule, qui revient à quelque chose peut-être d'un tout petit peu moins... on va tous se mettre en full remote, en full télétravail, mais par contre, on va revenir à une situation plus équilibrée, ou en tous les cas, quelque chose qu'on va, au fur et à mesure, année après année, réajuster.
Bien sûr.
Alors, finalement, le télétravail devient une carte dans l'organisation d'entreprise, et cette carte, elle doit être travaillée, réajustée année après année.
Alors, j'ai une conviction, j'aimerais bien partager ça avec vous, Julien, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'accord de télétravail, et j'ai l'impression que certaines entreprises, comme par exemple Unilever, sont en train de mettre, alors ils ne le nomment pas comme ça, mais des accords de présentiel. Je m'explique. Ce sont des entreprises qui vont imposer uniquement 2 jours de présence par mois, et ensuite, le salarié s'organise absolument comme il veut. S'il veut faire du 100% présentiel, il peut. S'il veut faire du 50-50, il peut. Mais fondamentalement, la norme devient quasiment la liberté et la flexibilité. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui permet aux entreprises d'augmenter leur attractivité, de dire aux salariés finalement, bon, il faut du lien social, donc on vous impose de venir, mais c'est uniquement pour des réunions. Ensuite, vous faites comme vous le souhaitez au sein de chaque équipe.
Alors nous, dans les organisations qu'on a et qu'on diagnostique via Great Place to Work, on a des organisations qui sont 100% en remote, qui ont des super résultats.
En 100% remote avec suppression des locaux ?
Ouais, quasiment suppression des locaux. Wow. Je pense à une société comme Platform.sh, donc qui sont des entreprises très, très, souvent très tech.
Oui, bien sûr.
Et puis après, on a des entreprises hybrides, qui sont plus dans ce que vous évoquiez, Gaël, du cas d'Unilever. On n'en travaille pas avec Unilever, donc je ne peux pas vous en parler. Mais effectivement, encore une fois, chaque organisation, quelque part, doit trouver sa proposition de valeur sur ce thème. Vous avez des collaborateurs et des collaboratrices, certains vont avoir envie de venir plus régulièrement, d'autres vont avoir envie de venir moins régulièrement. Et je crois juste que, comme je le disais sur la première tendance, c'est finalement une organisation qui doit être flexible, tout en conservant le corps social que l'entreprise représente. Donc il est important de se retrouver. Et finalement, le vrai sujet n'est pas tant de savoir comment on s'organise, mais pour quelles raisons s'organise-t-on de cette façon-là. C'est-à-dire, quelles sont les tâches, quels sont les moments, quels sont les rituels qu'on souhaite vivre de manière à distance, et quelles sont les tâches, quels sont les rituels, quelles sont les actions qu'on pense devoir vivre de manière en proximité. Et il y a des tâches, effectivement, qu'on va faire de manière plus facile à distance, des tâches qui sont très productives, des tâches de réflexion, il y a des actions, à contrario, qu'on fera mieux en proximité. Et je ne crois pas qu'il faille être dogmatique en disant « je fais 2 jours, 2 heures », c'est vraiment plus, et c'est là où, à nouveau, je rejoins ce que vous disiez, Gaël, le management intermédiaire joue un rôle essentiel. J'ai envie de dire que le contrat de télétravail ou l'accord de télétravail généré par l'organisation vient dresser un cadre, et ce cadre doit être interprété et laissé à la marge d'appréciation de chaque équipe, de chaque individu, et donc du management de proximité.
Mais est-ce que justement le plus grand défi pour les entreprises, si on regarde les entreprises du XXe siècle, fondamentalement elles avaient un accord cadre qui s'appliquait à tout le monde, est-ce que la plus grande difficulté, ça ne va pas être de proposer à ses salariés une offre qui va permettre de s'adapter? Par exemple, un gamin de 20 ans, désolé pour les auditeurs de Happy Work qui ont 20 ans, mais je peux être votre père, oui. Ça y est, c'est... Non, mais c'est terrible parce que maintenant, ça y est, je pense à Star Wars. Non, mais à 20 ans, ou quand on a des enfants, on ne va pas avoir le même équilibre vie privée-vie pro. Ensuite, quand les enfants grandissent, on va encore changer. Et c'est un énorme défi, parce que c'était très simple au XXe siècle. On dit, bon voilà, c'est l'accord qui s'applique à tout le monde. Et maintenant...
Alors, je pense que vous avez pleinement raison, Gaëlle. Le grand sujet et la tension qu'on... nous, on voit poindre dans les organisations, va être de combiner deux axes. Un axe d'individualisation et donc de flexibilisation. Et donc, il y a cette attente très forte d'individualiser mon traitement, d'individualiser ma relation à l'entreprise. Et ça, c'est un axe très fort pour l'organisation. Et il y a un autre axe qui forme une forme de paradoxe, qui est un besoin de collectif pour aller répondre à un besoin de sens. Parce que le sens, vous allez avoir du mal à le trouver tout seul. Alors certains peuvent le trouver seul, mais globalement, le sens, il est aussi souvent issu du collectif. Et donc, en fait, les organisations qui seront performantes au XXIe siècle seront certainement des organisations qui arriveront à concilier besoin d'individualisation, ce qui veut dire adaptation des outils RH, des SI RH qui ne sont pas réputés pour une grande flexibilité. Et de l'autre côté, cette quête de sens est donc de collectif. Et je crois que c'est cette tension-là qui est absolument essentielle. Et dans cette tension, je reviens sur votre mantra et ce que vous disiez précédemment, Gaël, le facteur clé ou l'élément clé le plus important reste, me semble-t-il, le management intermédiaire. Parce que c'est lui qui va pouvoir réaliser des micro-ajustements, toujours dans le cadre, permettant de combiner de manière efficace individualisation et recherche de sens.
Ouais, d'où l'importance absolue de former ou de reformer les managers en ce moment, et je vois bien cette tendance dans les entreprises. Mais alors, maintenant, mon cher Julien, j'ai toujours une question, j'allais pas dire piège, vous inquiétez pas, je suis plutôt un gentil garçon dans l'absolu. Mais peut-être une question de perspective un tout petit peu plus complexe. Je vois arriver, alors dans certaines startups et des belles PME déjà, la semaine de 4 jours. Est-ce que pour vous, c'est l'avenir, ou est-ce que c'est un épiphénomène, ou est-ce que ce qui s'est passé en Belgique avec l'intégration dans la loi, la possibilité de faire la semaine de 4 jours, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va arriver de façon massive dans les années à venir ?
Alors, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, c'est une aspiration importante, mais comme toujours, le risque ou les sujets... Le défi est dans le détail. Qu'est-ce qu'on voit en termes d'organisation? C'est qu'effectivement, le retour d'expérience qu'on peut avoir des organisations qui ont basculé en 4 jours, c'est que le fait de libérer une journée permet véritablement d'assumer des tâches de transformer votre modèle de vie, parce que vous avez gagné une journée. Ce que le passage aux 35 heures n'avait pas permis, à savoir... De rentrer un petit peu plus tôt chez soi ou de partir un petit peu plus tard le matin, transforme pas fondamentalement votre journée. Transforme pas fondamentalement votre semaine. Quand vous travaillez pas le mercredi ou quand vous travaillez pas le mardi, évidemment, vous savez que vous avez cette journée-là, et cette journée-là, elle va pouvoir être consacrée à d'autres tâches. Alors que quand vous rentrez simplement à 17h37, bon, ça change pas forcément votre journée. Donc, enfin, cette semaine des 4 jours, sur le... un peu dans la continuité des 35 heures françaises, est venu, vient chercher cette conciliation. Après, est-ce que ça correspond à tous et à toutes, à tous les modèles? Je ne sais pas, j'ai envie de dire que l'avenir nous le dira en fonction des tests qui sont en cours. Évidemment, ça répond à un besoin. Après, ça veut dire aussi une pression à la productivité hyper forte pour compenser ce temps de travail. Donc, il faut trouver le bon réglage. Et, j'ai envie de dire que chaque organisation va trouver... Et on en revient à cette dimension de flexibilisation. Est-ce qu'il faut que tout le monde y passe? Est-ce que c'est une partie de l'équipe? Est-ce que c'est sur la base du volontariat? Je crois vraiment que la solution, pour moi, elle est dans l'hybridation. Hybridation, on l'a vu, des lieux, des temps de travail. Hybridation des lieux de travail. Hybridation des façons de travailler.
D'accord. Alors, vous êtes quand même un great place to work, je veux dire un observateur très privilégié de toutes les tendances. Est-ce qu'il y a une grande erreur que certaines entreprises font systématiquement? systématiquement, ou alors je vais reformuler ma question. Quelle est l'erreur la plus récurrente que vous voyez quand il s'agit de bien-être au travail avec les entreprises que vous auditez?
Alors nous, j'ai envie de dire que pour moi, l'enjeu prioritaire reste dans la construction d'une culture de confiance, la capacité à reconnaître le droit à l'erreur. Ce qu'on voit qui fait le lien dans entre les différentes Great Place to Work, donc entre les organisations qu'on audite et qui ont des très bons résultats en termes de confiance, c'est souvent cette capacité donnée au droit à l'erreur, cette capacité donnée à nourrir et à laisser les collaborateurs et les collaboratrices prendre des initiatives et se tromper.
Ouais.
Et donc, de facto, l'erreur qu'on voit, c'est l'organisation qui, sous forme de process ou de procédure, va venir, qui se sédimente sur les épaules des collaborateurs et des collaboratrices, vont venir, c'est ces process qui vont venir empêcher la capacité d'initiative des collaborateurs et collaboratrices.
Et la créativité.
Et donc la créativité.
Ouais. C'est hyper intéressant parce que, in fine...
Je parle d'initiative, vous voyez, et pas d'innovation pour pas demander des trucs complètement dingues aux gens, juste plein de petites améliorations continues.
Oui, de remettre en cause certains process, d'être capable de dire que c'est pas forcément parfait, mais on en revient encore une fois à l'importance du management de proximité, fondamentalement.
100% d'accord avec vous, Gaël.
Alors, Julien, avant-dernière question, pardon, est-ce que vous êtes fondamentalement optimiste quant à la progression du bien-être au travail en France? Que, je le rappelle, on est quand même très, 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 très mauvais. Je suis désolé de le dire, je déteste faire du French bashing, mais en termes de niveau de burn-out, on est parmi les numéros 1 mondiaux, hein, quand même. Est-ce que vous êtes optimiste sur la progression du bien-être au travail, enfin?
Alors, moi, je suis hyper optimiste, parce que effectivement, chaque année, Great Place to Work, il y a de plus en plus de clients qui viennent se diagnostiquer. Il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de gens intelligents qui se penchent autour de cette thématique. Il y a beaucoup de managers et de dirigeants qui prennent conscience de l'importance de cette thématique. Et puis, il y a beaucoup d'études qui prouvent, de manière très académique, que prendre soin de ses collaborateurs, c'est aussi être efficace du point de vue économique. Donc oui, fondamentalement, je suis optimiste. Et oui, j'ai envie de vous dire que ça va s'améliorer. Pour moi, le grand enjeu du futur va être de réussir à faire infuser la RSE au sens le plus large possible dans la culture managériale des organisations. Aller encore plus loin que la qualité de vie au travail, après répondre à la question « j'ai envie que l'entreprise prenne soin de moi », les collaborateurs et les collaboratrices veulent que l'entreprise prenne soin d'eux, et ils veulent que l'entreprise prenne soin de la planète, au sens le plus large possible de la RSE. Je pense que c'est ça notre prochain défi.
Bah super, eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette interview, mon cher Julien, et donc question traditionnelle, quelle est votre citation ou votre mantra préféré?
Alors là, c'est pas ma préférée, c'est une que j'ai lue cette semaine, parce que j'aime bien la lecture, j'aime bien bouquiner. Donc je vais vous la lire parce qu'elle est vraiment remarquable, c'est celle d'un philosophe anglais qui s'appelle Francis Bacon, pour ceux que ça intéresse. Si on commence avec des certitudes, on finit avec des doutes, nous dit-il. Et si on commence avec des doutes, on finit avec des certitudes. Et j'aime bien cette phrase qui nous amène à être, ces deux phrases qui nous amènent à toujours questionner ce que nous sommes, questionner notre mode de fonctionnement, comme vous le faites fort justement, Gaël.
Ben merci du partage. Je ne savais pas que Francis Bacon avait écrit cela, et c'est tellement juste. La culture du doute, ça rejoint la culture du droit à l'erreur, enfin toutes ces choses-là. C'est tellement important. Eh bien, écoutez, Julien, mille merci pour ce moment passé avec moi. C'était absolument passionnant. Et j'espère que les auditeurs de Happy Work, j'ai aucun doute là-dessus, auront apprécié notre échange. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Et on est encore en janvier, donc tous mes vœux pour 2023.
Belle année à toutes et à tous.
Encore, et plein de bien-être au travail, et puis diffuser la bonne parole. Merci beaucoup, Julien.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.